Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Bankassa, même heure partout au Mali. Bonjour et bienvenue à cette édition matinale dont voici les titres. La nouvelle loi électorale a été adoptée ce vendredi par la majorité écrasante des membres du Conseil national de transition. Cependant, des experts estiment que les divergences provoquées par les 92 amendements apportés par le CNT au projet de loi initial du gouvernement font planer des risques sur sa promulgation. La première cohorte de journalistes formés au Mali est sortie ce samedi. Cette promotion baptisée Diomassi Bomboté est la toute première de l'École supérieure de journalisme et des sciences de communication. Près de 50 000 personnes, dont des femmes et des enfants de nationalités différentes, vivent sur le territoire malien et parfois dans des conditions précaires. C'est dans ce cadre qu'est célébrée ce lundi la Journée mondiale des réfugiés au Mali. Le point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté. Mamadi Keita assure la mise en onde. Tout d'abord, cette information, au moins 95 personnes ont été froidement tuées ce samedi par des terroristes à Dialassagou dans le cercle de Bankassa. Selon des sources locales, les victimes sont pour la plupart des commerçants. Les assaillants ont incendié leur boutique, créant une psychose totale dans la ville. Les mêmes sources rapportent que plusieurs familles sont en train de fuir la localité. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La nouvelle loi électorale a été adoptée ce vendredi par le Conseil national de transition par 115 voix pour, 3 contre et aucune abstention. Ce texte a été validé par la majorité des membres du CNT après avoir apporté 92 amendements au projet de loi initial du gouvernement. Cette nouvelle loi met en place un organe unique de gestion des élections à la place d'un système tripartite contesté. Après son adoption, la nouvelle loi électorale doit être promulguée dans les semaines suivantes par le président de transition, colonel Assimi Goïta. Les détails avec Mahamane Babakunta.
L'acte que nous venons déposer est historique. Nous venons de doter le Mali d'une nouvelle loi électorale. Ce n'est pas gagné d'avance. Les chemins étaient parsemés d'embûches, mais nous y sommes parvenus. C'est féliciter le colonel Malik Diaw, président du Conseil national de transition. L'organe législatif a adopté 92 amendements sur 219 articles du projet proposé par le gouvernement. Parmi ces modifications, on peut citer celles apportées à l'organe unique de gestion des élections, dénommé Autorité indépendante de gestion des élections. De 7 membres, dont 4 nommés par le Premier ministre, elle passe à 15 membres, dont 3 nommés par le Président et un seul par le Premier ministre. Les partis politiques et la société civile doivent, eux, en désigner 7. Les autres sont nommés par divers pouvoirs publics. Ces amendements ont provoqué des divergences entre le gouvernement et le Conseil national de transition. La ministre déléguée chargée des réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sékou Diko, avait même laissé entendre que le gouvernement ne se reconnaît pas dans ces modifications. L'adoption de ce projet de loi est une étape importante vers l'organisation d'élections générales et le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il faut rappeler que ce vote est intervenu après une série de séances d'écoute des forces vives de la nation. Selon le président de la commission loi du Parlement, plus de 200 entités ont été écoutées par le CNT avec en moyenne 7 à 8 entités par jour, alors qu'on visait au début une quarantaine.
Pour des politologues, la divergence entre le gouvernement et le Conseil national de transition sur la nouvelle loi électorale pourrait entacher sa mise en œuvre ou même retarder sa promulgation. Selon Daouda Traoré, enseignant-chercheur à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, la résolution de cette crise est indispensable pour éviter des blocages dans la suite du processus de refondation. Il est joint par Sita Sidibé.
Le CNT était dans son rôle de faire des amendements pour pouvoir adopter cette loi. Donc, quitte au gouvernement de voir le côté avantageux de ces amendements-là. Quand je vois que ça devient source de tension entre le gouvernement et le CNT, chose que nous n'avons vraiment pas besoin aujourd'hui, parce que l'action gouvernementale aussi est liée à la question d'applicabilité de cette loi. Qu'ils arrivent à avoir un consensus autour de cette loi est vital et capital pour la transition. La principale conséquence aujourd'hui, c'est la distance, le fossé qui peut être créé entre le CNT CNT et le gouvernement. Donc, la cohésion gouvernementale va en pâtir, ça c'est forcé.
8h passées de 5 minutes, réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte Twitter. Les acteurs politiques et la société civile sont partagés sur la nécessité de l'élaboration d'une nouvelle constitution. La rédaction d'un avant-projet de loi portant constitution de la République du Mali a été décidée dans un décret présidentiel qui ordonne la mise en place d'une commission chargée de la rédiger dans un délai de 2 mois. Cependant, c'est pour le soutien de la transition. L'élaboration d'une nouvelle constitution est une recommandation du peuple malien. Le cadre d'échange des partis politiques pour une transition réussie estime que la situation du pays n'est pas favorable à une telle aventure. Ils l'ont fait savoir ce vendredi dans l'émission Grand Dialogue de Studio Tamani, un aperçu du débat avec Koumafi Keïta.
Pour Ibrahima Sanko de la Commission d'observation des élections modèle Mali, un président de transition n'est pas habilité non seulement à réviser, mais aussi à amener une nouvelle constitution. Il estime qu'un consensus politique est le préalable nécessaire.
Maintenant, si on veut aller sur la base des assignations de la refondation, là, il faut un consensus politique. Et tant que le consensus politique n'est pas là, on ne peut pas aller à une nouvelle constitution et encore moins à la révision de la constitution du Mali.
De son côté, les cadres des champs des partis et regroupements politique pour une transition reçue est ferme sur ce sujet. Pour Amadou Aya, la crise multidimensionnelle qui sévit dans les pays n'est pas favorable à la réalisation d'un tel projet.
Les autorités ont toujours évoqué l'insécurité pour ne pas organiser les élections. Donc c'est un paradoxe qu'on nous parle aujourd'hui d'un référendum. Alors même que le référendum, pour nous, c'est la plus grande manifestation populaire en démocratie qui doit impliquer l'ensemble des Maliens.
Mais quant au soutien de la transition, la rédaction d'une nouvelle constitution est l'une des grandes aspirations du peuple malien, émise lors des assises nationales de la refondation. Pour Boulam Barrow, du Congrès national d'initiative démocratique, CINID, la constitution de 1992 ne correspond plus aux réalités sociopolitiques du pays.
Il est temps qu'on sorte du débat juridique parce que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'a pas sa réponse dans la constitution actuelle.
En attendant, les prochaines consultations entre la commission de rédaction et les forces vives de la nation, l'équipe de rédaction de cette nouvelle loi fondamentale est composée d'un président, 2 rapporteurs et des experts nommés par le président de la transition.
Autre sujet, la cérémonie de sortie de la première promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de communication a eu lieu ce samedi au Centre international de conférences de Bamako. Cet événement a été placé sous le parrainage du président de la transition. Cette promotion a été baptisée Diomassi Bombote, un des journalistes doyens du Mali. Un reportage de Lale Tangara.
Ils sont 21 étudiants de l'EJSC à recevoir leur attestation de licence professionnelle en journalisme. Ces diplômés sont les tout premiers sortants de l'école de journalisme du Mali. Très heureux, les récipiendaires ont promis de mettre leurs connaissances à profit pour aider le redressement du Mali. Aminata Sempara, une des majeures de cette promotion.
Ce diplôme représente un nouveau départ pour moi en tant que personne, en tant que journaliste, parce que ce diplôme m'ouvre la porte déjà du marché de l'emploi, mais surtout avec beaucoup d'opportunités. Et de pouvoir honorer cette école, honorer toute la nation malienne.
De son côté, le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a invité les tout nouveaux journalistes à exercer leur métier avec professionnalisme et dans l'intérêt supérieur de la nation.
Chers diplômés, vous avez une arme redoutable à main. Chaque fois que vous avez une information à traiter, prenez le temps de vérifier. Préservez l'équilibre de la société. Aidez notre pays à sortir de la situation de guerre dans laquelle il se trouve. Les Maliens comptent sur vous.
À noter que l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication a été créée en 2015 et elle n'est devenue opérationnelle qu'en 2018. Selon son directeur général par intérim, Brahima N. Kamara, elle compte 5 cohortes de 25 étudiants chacune. La majeure de cette première promotion a été promise au poste de chargé de mission de la primature.
Je vous l'annonçais dans les titres. La journée mondiale des réfugiés est célébrée ce lundi au Mali. Cette commémoration intervient cette année dans un contexte où l'insécurité a empêché l'acheminement de l'assistance aux réfugiés dans des zones en proie à l'insécurité, a déclaré le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Mali. Selon le représentant de l'organisation, près de 50 000 réfugiés, dont des femmes et des enfants, vivent sur le territoire malien. Mohamed Askia Touré est le représentant du HCR au Mali. Il est au micro de Khalifa Goïta.
La situation des réfugiés, malheureusement, ne fait qu'empirer du fait que l'insécurité partout dans le pays, l'endroit où se retrouvent les réfugiés, malheureusement, elles sont souvent amenées à se déplacer en Corse. Exemple, près de 20 000, voire 25 000 réfugiés qui avaient trouvé refuge dans la région d'Andarabukan, mais du fait du conflit entre les groupes islamistes et d'autres groupes armés, ces personnes se retrouvent encore dans un déplacement. Plus de 60 voire 70% de ces populations est constituée de femmes et constituée d'enfants. Mais malheureusement, c'est l'absence de fonds qui fait que nous avons plus ou moins des réductions dans les activités qui sont données à leur endroit. De deux, c'est l'aspect sécuritaire. Je veux dire qu'on n'a malheureusement pas accès à beaucoup d'endroits du territoire malien.
Autre chapitre, une vingtaine de jeunes enfants de la rue ont eu vendredi dernier leur attestation de formation. Ils ont été initiés à des petits métiers pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Pour les organisateurs, cette formation permettra de réduire la précarité des enfants de la rue. Les détails avec Aboubakrine Ag Mohamedine Yatara.
Pour les bénéficiaires, ces formations leur permettront de garantir leur avenir. Ces jeunes enfants indiquent que les métiers appris leur faciliteront d'exercer un travail au lieu de manger tous les jours dans le riz. Ousmane Namparé, bénéficiaire.
Bon, j'ai appris à souder, bon, à construire beaucoup de choses. Je peux faire des chaises avec des châteaux. Je peux travailler tout seul.
Cet avis est également partagé par les responsables du service social. Pour Ali Oukoulbali, directeur du SAMU Social Mali, tous les enfants formés ont quitté la rue et exercent des petits métiers.
Au cours de ces 12 mois de formation, ils ont appris les métiers de la menuiserie métallique, tout ce qui est fabrication de tout ce que vous pouvez voir comme équipement des bâtiments, les portes, les fenêtres. Ils ont aussi habilité vraiment à travailler sur des gros chantiers de menuiserie métallique. L'année dernière, on a célébré la sortie de 20 jeunes. Je peux vous assurer que 12 mois après, nous sommes en contact avec ces 20 jeunes-là. Ils sont vraiment dans un parcours d'insertion professionnelle durable. Ils sont tous en activité.
Rappelons que ces formations d'accompagnement et de réinsertion concernent tous les enfants de la RI âgés de 16 à 22 ans.
Direction Ségou, où la rédaction s'est intéressée à la crème de Ségou ou Ségou Dégué. Cette crème aurait un pouvoir mystique sur ses consommateurs, selon des historiens. Comment se prépare le Ségou Dégué? D'où elle tire ses origines? Notre envoyé spécial de retour de Ségou, Arkia Touré, a tenté d'élucider son mystère.
Les historiens expliquent que le Ségou Dégué est l'un des secrets des femmes de Ségou depuis le royaume Bambara. Cette crème donne l'amour de Ségou à ses consommateurs. Mais selon certains, quiconque boit le Ségou Dégué reste à jamais à Ségou. Mais pour d'autres, il s'agit juste d'un mythe.
Ce Ségou Dégué, si tu le consommes, peut avoir un effet sur l'homme comme sur la femme. Moi, je ne suis pas d'accord et je n'y crois pas.
Ça existe, mais présentement, ce crème n'est pas comme avant. Les jeunes filles aujourd'hui ne s'approchent pas des grandes dames pour vraiment tirer beaucoup de leçons. C'est ce qui fait qu'on n'a plus le secret du dégué.
Et pourtant, la recette de la préparation du Ségou Dégué se présente moins compliquée par ses connaisseurs. La crème se fait à base de mil. Professeur Yamoussa Koulibaly, historien.
Le dégué, c'est le petit mil. Et comme ingrédient, on a la poudre du fruit du baobab. Il y a le lait, mais lait très écrémé. Troisième idée, c'est le piment. Oui, c'est le nganifi.
Qu'est-ce qui explique le mystère autour de cette crème? Les raisons sont multiples selon le professeur Yamoussa Koulibaly, mais il donne quelques indices.
Il y avait beaucoup d'éléments aphrodisiaques. Il y a le baobab, la poudre du fruit de baobab. Le nganifi est un aphrodisiaque. Le lait caillé naturel, quelqu'un qui boit le lait caillé naturel dans la vie, tu ne feras jamais la prostate.
En attendant de mieux comprendre ce secret des femmes de Ségou, les observateurs suggèrent de consommer avec modération les Ségou Dégué.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité régionale, une pénurie d'essence sévit à Koro depuis une semaine. Cette rareté du carburant a provoqué une flambée fulgurante de son prix. Le litre d'essence est actuellement vendu dans la localité à 2000 francs CFA. Selon des sources locales, cette cherté de l'essence a impacté les activités des populations. Celle-ci lance un cri de cœur aux autorités pour mieux ravitailler la ville en carburant. Il est 8h passées de 14 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.sujetamani.org ou en appelant gratuitement sur VMO au 37 321. Restez à notre écoute. Dans quelques minutes, ce sera la version Bambara de cette édition. Ce sera une présentation de Mariam Koulibaly. Mais avant tout de suite, le magazine Parlons de l'environnement.